liberté religieuse qu'on a. J'étais au fil de circulation, juste avant d'arriver dans le stationnement, j'étais à côté du maire. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet toujours que je suis à côté du maire. J'ai déjeuné il y a quelques semaines, le maire était à la table à côté. On salue, il sait que je suis le pasteur au 90 boulevard Cité des Jeunes, puis moi je sais que c'est le maire à qui je m'assure d'envoyer mes taxes, puis j'envoie d'être bien un bon citoyen. Puis je pense qu'on a intérêt à rendre grâce à Dieu pour cette liberté qu'on a ici à l'église de Vaudreuil d'exprimer notre foi. On a une liberté, on était à Ormstown il y a quelques semaines avec les fermiers chrétiens, de pouvoir partager sa foi et de ne pas avoir crainte à se faire lapider, comme on va voir dans ce passage ce matin. Jean 11, et c'est le Jésus opère un miracle qui surprend. J'entre dans encore une micro-série sur la mort. C'est tellement joyeux, hein, parler de la mort. Mais c'est la résurrection, oui, de Lazare dans Jean chapitre 11. Mais aujourd'hui et dimanche prochain, on va vraiment s'attarder sur la mort. C'est quelque chose qui est un sujet assez, pas controversé, c'est une réalité. Et dans tout cela, Jésus va opérer un miracle qui surprend. Dieu vous surprend? Dieu vous a déjà surpris? Et Dieu va continuer à nous surprendre? Notre Dieu n'est pas un Dieu aléatoire. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses à l'improvisme, il n'est pas... Notre Dieu connaît tout. Notre Dieu sait tout. Il peut tout. Pourtant, combien de récits dans la parole de Dieu voit-on des hommes ou des femmes qui sont complètement époustouflés, surpris par le fait que qu'est-ce que Jésus fait ou qu'est-ce que Dieu fait est différent de ce qu'ils auraient prévu. Moïse, par exemple, est-ce qu'il pensait commencer... diriger le peuple à 80 ans. Aujourd'hui, dans notre société, là, un grand-père bien installé à la retraite, berger à Madian, tout allait bien. Pourquoi devait-il se retrouver devant un buisson ardent? Combien, on peut supposer, Moïse, s'il était pour être utilisé, s'arrêtait comme jeune prince, déjà en Égypte, déjà avec la puissance, déjà avec une capacité. Et non, Jésus ou Dieu nous surprend. Prenant un homme qui, à ce point-là, bégaye, la difficulté de s'exprimer, va être appelé à diriger un peuple et sortir d'Égypte. Surprise encore, Habacuc, vous le connaissez peut-être peu ou beaucoup. Habacuc, c'est un prophète dans l'Ancien Testament, un petit livre. Habacuc est surpris que Dieu lui dit que Habacuc doit communiquer au peuple qu'un peuple plus méchant que le peuple d'Israël va venir les détruire, va venir châtier, va venir exercer un jugement. Habacuc est surpris. Pourquoi, Dieu, est-ce que tu utilises un peuple plus méchant? Nous, le peuple d'Israël était méchant, mais vraiment un peuple vraiment, vraiment méchant pour venir juger. Encore, l'effet surprise. Le prophète dit, mais pourquoi? Il se pose la question. Dieu a le tour d'attirer notre attention. Êtes-vous d'accord? Certains d'entre nous, c'est très jeune dans notre vie, Dieu a attiré notre attention. D'autres, pour nous, on peut rendre grâce à Dieu, c'est plus tard dans la vie. Combien de témoignages ce matin on pourrait entendre, d'hommes et de femmes, Dieu est venu chercher notre attention de façon inattendue. Ce n'était pas prévu. Eh bien, dans le passage qu'on va lire, on va lire Jean 11 ensemble. Et là, j'espère que vous commencez à me connaître, mais moi, j'aime lire la parole de Dieu. C'est bon pour nous. C'est pas comme un médicament qui goûte bizarre puis qu'on doit avaler difficilement. Jean 11, le peuple de Dieu est un peuple qui va être un peuple de la parole de Dieu. Et on va lire les premiers, j'allais dire 53, mais je vais vous épargner. On va lire les premiers 40 versets, là. Fait que c'est quand même... Je fais une petite économie. On va lire jusqu'à verset. On va voir jusqu'à où ça va. Jusqu'à où mon PowerPoint va. Parce que j'ai pas les chiffres dessus. Là. Fait que je veux pas. Lisons Jean 11. Ça va nous mettre dedans. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes, est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment, au chapitre 10, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? » 12 heures de lumière. « Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « OK, Lazare est mort à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Ah, elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre! » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Il ôta donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et la mort sortit. Le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'est un long ouvrage narratif qui vaut la peine d'explorer. C'est pas juste à la Pâque qu'on devrait parler de résurrection. C'est pas juste, malgré que ce passage aurait bien correspondu à la Pâque, ce matin, je veux qu'on regarde ce Dieu, ce Jésus qui nous surprend. Jésus va démontrer d'abord son amour et sa tendresse par le délai. Surprenant, n'est-ce pas, de montrer son amour par le fait qu'il va attendre. Pour nous, c'est contre-intuitif. Si quelqu'un nous aime, il va faire ce qu'on lui demande tout de suite. Si on demande quelque chose à quelqu'un, on le veut tout de suite. Eh bien, Jésus, devant un cri désespéré d'aide de Marie et de Marthe, qui font envoyer un messager vers Jésus. Pour vous donner une idée, Jésus n'est pas à côté, Jésus n'est pas proche d'où se trouve Béthanie. Béthanie, c'est à 3 milles de Jérusalem, et ça, c'est plutôt 100 milles d'où se trouve Jésus. Donc, Marie et Marthe envoient un messager, à peu près 4 jours de marche. C'est la distance, pour ceux qui sont trifluviens, c'est de Montréal à Trois-Rivières. C'est « vas-y à pied, va dire à Jésus à Trois-Rivières que quelqu'un à Montréal, ton ami, celui que tu aimes, est très malade. » Ou pour ceux qui sont plus peut-être région Gatineau, Vaudreuil à Ottawa. C'est vraiment une distance de marcher 4 jours là, à pied. C'est un homme en santé, ça lui prendrait environ 4 jours. Les vélos n'existaient pas, voitures électriques non plus, avion, train, tout cela. Là. On se retrouve dans une autre époque, premier siècle. Et cette requête, selon le contexte, c'est un cri de désespoir que ces deux dames, qui sont en moyen, c'est certes d'envoyer quelqu'un comme ça, et on va le voir en regardant même le contexte d'essai funéraire, vous allez dire, OK, Marie et Marthe, et Lazare n'était pas une famille qui était pauvre. Au contraire, ils étaient vraiment bien en moyen. Et Jésus, on le voit par le texte, mais même par l'Évangile au complet. Jésus est caractérisé par un homme qui aimait. Comment est-ce que Jean se décrit lui-même, sans prendre son propre nom, le disciple que Jésus aimait? Et à plusieurs reprises dans le passage que nous avons lu, on voit que Jésus aimait Marthe. Aimait Marie, aimait. Lazare, c'est comme le petit frère qu'on connaît pas, qu'on connaît peu, mais on sait que Jésus l'aimait. Et devant tout cela, la suite logique, si on retourne au verset 4, c'était que Jésus aurait fait comme il a fait dans le passé, soit simplement parler, puis guérison, ou soit simplement se déplacer de façon surnaturelle, ou simplement même juste se diriger tout de suite pour arriver. Mais non. Jésus, dans son enseignement, dans sa façon d'opérer ce miracle, nous surprend. Et ça devrait déjà être ligne numéro un pour nous. Jésus, il ne fait pas les choses comme nous, on le veut. Il les fait comme il va imiter ou il va faire la volonté de son Père. Jésus est très conscient qu'en allant à Béthanie, il ne précipite pas, mais il déclenche ses derniers jours sur terre. Réalisez-vous cela? Jean chapitre 10, il y a des discours clairs et nets sur lui étant le berger et les brebis qui n'ont pas écouté. Il y a des jugements très clairs auprès des pharisiens. Eh bien, Jésus sait qu'en allant dans chapitre 11, on clôture la fin de son ministère public. En allant vers Béthanie, vers Jérusalem, c'est son dernier voyage. C'est sa dernière destination. On va se retrouver en étant même la mort, une mort à la croix. Donc la chronologie, Lazare est malade au début. Les messagers prennent 4 jours pour y aller. Jésus décide de prendre 2 jours avant d'y aller. Et à son arrivée à Béthanie, on voit que Lazare est mort depuis 4 jours. Donc sans être mathématicien, 4 jours pour le voyage où on constate la maladie de Lazare, 2 jours de délai, ça fait 4 plus 2, 6. Et là ensuite, pour qu'il y aille, ça prend un autre 4 jours, on parle de 10 jours. Dans notre époque aujourd'hui, ça c'est très long, là, mais dans ce temps-là, c'était pas si long que ça. Mais quand même, il y a un délai entre le temps qu'il y va et il va manifester. Et je vous pose la question ce matin, comment est-ce que Jésus va manifester son amour par ce délai? Et c'est là que j'arrive dans le sujet de la mort. Parce qu'on est dans la culture qui environnait la mort de cette époque-là n'est pas notre culture. Aujourd'hui, si tu veux être mort, Il faut que tu le sois déclaré par quelqu'un d'officiellement de la... comment on dit? Un expert de la domaine, du domaine de la santé. Aujourd'hui, tu peux pas être mort, même si tu es mort, avant que quelqu'un dise « il est mort ». C'est vraiment aussi drôle que ça. Mais à cette époque-là, c'est pas la même réalité du tout, du tout. Aujourd'hui, la mort doit être certifiée. Même personne ici, je pense, ont connu l'époque des croque-morts. Avez-vous connu ça? Je vois certains qui ont. Il y avait un temps où est-ce qu'on venait valider en croquant son orteil à la personne pour voir s'il réagissait. Ça, c'est d'une autre époque. Mais si on recule juste il y a 100 ans, en 1919 au lieu de 2019, la mort ressemblait beaucoup plus, ou la culture de mort ressemblait beaucoup plus à ce que vivait le premier siècle. Pas pareil, mais aujourd'hui, il y a tellement de processus, le système de être embaumé, les funérailles, pas les funérailles, mais tout le procédé est vraiment compliqué comparé à ce que vivait à cette époque-là. Et même, peut-être nous, dans notre petite mentalité occidentale, pour bien des gens sur la planète, la mort ou tout ce qui environne la mort ressemble beaucoup plus à ce que Jésus et ce que Marie et Marthe avaient vécu. Simplement, nous, d'avoir aujourd'hui un open casket, un cercueil ouvert, c'est complètement, pour bien des cultures aujourd'hui qui arrivent ici en Amérique du Nord, quoi, vous l'avez maquillé, vous l'avez habillé, puis là, les gens viennent à côté, puis on fait un bon travail, oui. Ça y ressemble. Non, mais c'est ce type de conversation qu'on voit, ah, ça y ressemble beaucoup. Ah, il y a encore du rose dans ses joues. T'sais, il y a toutes sortes de commentaires que vous allez entendre dans les moments funèbres, les moments autour du décès, que c'est complètement bizarre comparé à ce que nos chers intervenants dans ce passage ont vécu. À l'époque, pour revenir au texte, à peine un jour que quelqu'un était mort, décédé, on procédait à l'enterrement. Pourquoi? Pour les raisons de santé, les raisons simplement que avec l'humidité, la chaleur, le corps se décomposait tellement vite. Et on n'avait pas besoin d'attendre que le procureur ou que c'est quoi, il y a des termes techniques là par rapport à tous ceux qui interviennent, un certificat de décès, le sac noir, le zipper, toutes les... Ça n'existait pas, c'était vraiment, c'est à la table de cuisine, il est mort papa ou grand-papa, on le met dans une boîte, puis on va l'enterrer, ça c'est s'il y a 100 ans, c'était vraiment ça. Vous parlez à votre grand-père, vous parlez à votre arrière-grand-père, ils vont vous dire que même la culture de mort aujourd'hui, je dois vous le dire, ici là, rares sont ceux qui ont perdu un frère ou une sœur. Tandis qu'il y a 100 ans, un tiers, 30% des frères et sœurs décédaient de mort infantile. On n'est plus en contact avec la mort de la façon que le texte ici l'est ou de la façon que c'est l'était même il y a 100 ans. Et il y avait une drôle de croyance, et c'est là que vous allez voir pourquoi Jésus manifeste son amour par le délai. Parce qu'il y avait une croyance rabbinique, c'était pas la croyance de Jésus, mais la croyance du peuple contemporain de l'époque, que quand quelqu'un mourait, en passant, il n'y avait pas il n'y avait pas une infirmière qui venait constater que le cœur avait arrêté. Donc, des fois, la personne était soit dans un coma ou dans un état où est-ce que le respire était vraiment ralenti. Mais à cette époque-là, les croyances étaient que l'esprit de la personne restait au-dessus du corps jusqu'à ce que la décomposition commence. Du moment que la décomposition commençait, les gens disaient « Ah, c'est trop tard. Le corps, si l'être est en train de se décomposer, l'être physique, le corps physique, trop tard pour l'esprit de re-rentrer. » Mais il y avait toujours cette ouverture. Ou est-ce que si quelqu'un était mort, selon leur compréhension, ça se pouvait que dans les prochains un ou deux jours, qu'il revienne à la vie. Et j'ai trouvé une drôle d'histoire. Don Carson, lui-même un prédicateur, il est né au Québec, mais il est prédicateur aux États-Unis. Lui-même, en prêchant ce message, il y a une vieille madame britannique qui, elle, a dit « Je me souviens de mon grand-père. Mon grand-père qu'on pensait qu'il était mort. » Table de cuisine... On le met dans la boîte, on fait quelques mots, quelques services, il n'y aura pas d'exposition, il y aura absolument. On le prend, puis en allant au cimetière, ça cognait dans le cercueil. Et vous, imaginez-vous, vous avez ça sur l'épaule, puis vous entendez. Hello? Mais cette madame qui raconte à Don Carson dit en plus, Il est sorti, là. Il est sorti de son cercueil. Puis il a vécu un autre 15 ans. Donc, c'est vraiment, ça vient rattacher à ce que les Juifs voyaient des fois, c'est que quelqu'un qui était mort ou presque mort se réveillait et pouvait vivre encore. Donc, Jésus, en attendant et en s'assurant que le corps de Lazare est en train de se décomposer, parce que s'il avait décidé de précipiter son retour, il serait arrivé dans cette fenêtre-là. Il serait probablement arrivé où est-ce que il est mort, mais peut-être que... Donc, son miracle n'aurait pas été un miracle. Les gens auraient dit, c'est encore l'idée de l'âme qui gravite autour du corps, puis qu'il n'était pas vraiment mort, finalement. Donc, ça aurait été comme, il est venu réconsoler, mais il n'est pas venu avec toute la puissance que, comme nous, on peut lire aujourd'hui dans Jean 11, dire, il a pris un corps qui décomposait, 4 jours dans le tombeau, comme on le voit, le passage, je l'explique. Je vais revenir à mes moutons, là, excusez-moi. Jésus croyait pas cette croyance-là, mais le peuple et le miracle que Jésus opéra, c'est tellement spectaculaire parce qu'on a vu plein de miracles déjà dans l'évangile de Jean. L'eau en vin, c'est un bon miracle. Un aveugle guéri, on a vu toutes sortes de beaux miracles, mais celui-ci, il se démarque, c'est spectaculaire parce que ça laisse aucun doute le fait qu'il était en train de décomposer dans un sépulcre. Et vous avez déjà entendu, pour vous les hommes, je sais que José Lemoine en a déjà parlé, le concept, à un déjeuner des hommes, du plaisir différé. J'arrive à une application, là, je sors un petit peu de la mort pour un instant, mais attendre afin d'avoir un plaisir plus complet. Vous vous souvenez de ça, les hommes, quand M. Lemoine parlait, puis il disait que des fois, ça vaut la peine d'attendre. Eh bien, frères et sœurs, des fois, Dieu veut qu'on attende. Dieu, par le délai, veut nous enseigner quelque chose. Et c'est contre, ce que je vous dis ce matin, c'est contre-culturel, mais c'est tellement biblique, c'est tellement ce que Dieu veut. Et on peut tous ceux qui ont des jeunes enfants peuvent vite s'identifier et dire, on le sait, quand notre enfant a faim, il nous le fait savoir. Il ne veut pas manger dans 15 minutes ou une demi-heure, il veut manger... maintenant. Et vous, c'est quoi que votre enfant va dire ou votre petit enfant? Il va dire maintenant. Il va, vous pourriez faire tous les bruits que vous savez là. Des fois, il n'y a pas les paroles encore, mais des fois, les chrétiens sont comme les bébés. Des fois, les chrétiens veulent tout de suite la réponse ou tout de suite la délivrance ou tout de suite insérer la chose que vous avez demandé à Dieu puis qu'il vous a pas donné comme un popcorn instantané. Il vous a pas donné ça tout de suite. Il arrive que Dieu, pour notre bienfait ce matin, frères et sœurs, permet par amour nous faire attendre. Chose que Marie et Marthe avaient de la misère à concevoir au moment même. Mais on va voir que suite, quelle belle surprise. Ô combien on pourrait témoigner ce matin des nombreuses leçons que Dieu nous enseigne par le délai. Quand on attend, quand on a une situation qui perdure, qu'est-ce qui arrive? Ça nous donne une nouvelle perspective sur la situation, de vivre au travers des fois un tourment ou une difficulté. Certainement, Dieu veut des fois juste faire croître notre patience quand on est dans une situation difficile. Des fois, Dieu veut simplement quelque chose de plus grandiose pour nous et de nous donner ce qu'on veut ou ce qu'on a besoin plus vite n'est pas la bonne chose. Frères et sœurs, la marche par la foi implique marcher avec Dieu, sachant que lui, il sait mieux, malgré les délais, quand vous donnez ce que vous avez de besoin. Juste ça, ce matin, vous n'êtes pas sorti du lit pour rien d'entendre cela. Dieu, dans les délais, nous surprend, mais veut nous enseigner bien des choses. Les applications sont multiples. Pour vous, peut-être, père, aujourd'hui, on fête la fête des pères. Ah oui, des fois, ça vaut la peine d'attendre pour avoir tel objet ou telle réalité ou tel emploi. Mais combien que pour nous, comme Église, des fois, Dieu veut nous faire patienter. Au lieu de nous donner tout ce qu'on a besoin tout de suite, il veut qu'on attende, il veut qu'on s'accroche à lui. Première réalité, Dieu nous surprend, Jésus va surprendre Marie et Marthe, il va démontrer son amour en attendant. Par le délai, il va leur montrer quelque chose de plus grand, bien sûr. Deuxièmement, une deuxième réalité, je vous en partage juste deux ce matin, j'en ai deux autres que je veux partager la semaine prochaine. Mais Jésus va surprendre son audience, ou Marie et Marthe, en attirant et en refocalisant, en mettant l'accent sur lui-même. Et c'est drôle parce que c'est très surprenant. Si on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a perdu un frère, une sœur, une mère, un père, un oncle, et on est là au funérailles, et quelqu'un vient vous souhaiter des condoléances, mais au lieu de vous souhaiter des condoléances, il se met à te parler de lui. Il se met à te parler de sa réalité, de son voyage de pêche, peut-être de quelqu'un que lui a perdu. Est-ce que toi, comme personne qui veut être consolé, tu te sens bien, ou tu te sens même concerné? Il vient dire dans la ligne, puis il vient dire, « Ah, il faut que je te parle de mon match de basket, ou faut que je te parle... » T'es là, puis c'est comme, « Gars, je suis pas dans ce mode-là de me parler. » Mais c'est exactement ce que Jésus fait. Il surprend Marie et Marthe en parlant de lui-même, au lieu de parler de Lazare. Il ne concentre pas l'idée sur, « On va parler de Lazare, puis on va parler de sa belle vie, puis de son rire, puis de son voyage, puis on va... » Non! Jésus nous surprend ce matin, et il a le droit, et il est celui qui est digne de le faire, mais de refocaliser sur lui. On se rappelle déjà des « je suis » qu'on a vu dans l'Évangile de Jean. Il le dit, « Je suis le pain. Si vous avez faim, venez à moi, je vais nourrir. Je suis l'eau de vie. Vous avez soif, eh bien, je peux abreuver votre soif spirituelle. Pain, eau. » Il dit, « Je suis la lumière » dans un autre contexte, où est-ce qu'il va leur dire, « Marchez plus dans les ténèbres. Avec moi, vous allez pouvoir voir. » Il y a quelques semaines, on a parlé de Jésus, la porte, celui qui, si on entre par lui, on peut être sauvé. Eh bien, ce matin, sans aucune arrogance, sans aucune présomption, sans orgueil, Jésus déclare au verset 25 et 26, « Je suis, quoi? La résurrection et la vie. » Et des fois, on lit les passages, si je retourne au passage 21, Marie, elle a dit, si tu avais été là, et Marthe va le dire aussi, Marthe, à mi-chemin ici, Marthe dit, Seigneur, si tu avais été ici, des fois, on lit et on interprète ou on ajoute une intention qui n'est pas là. Combien de fois est-ce qu'on a lu ça, puis on dit, ah, Marthe et Marie sont en train de reprendre Jésus, sont un petit peu fâchés, mais en lisant, puis en tenant compte du contexte, puis en tenant compte de qui ils sont, puis même de l'usage des mots, il ne faut pas venir à ce texte-là et dire « Ah, ils sont en train de reprendre Jésus. » Au contraire, ils sont tristes. Elles sont tristes, Marthe, Marie. Et elles sont en train de dire « Si seulement tu avais été là, ce n'est pas un reproche, mais c'est un cri au désespoir de dire « Si seulement tu avais été là. » Et c'est pas de façon, je tiens à vous le souligner, c'est pas une réprimande qu'ils sont en train d'apporter à Jésus. Au contraire, même Marthe va lui dire, au verset 22, va lui dire « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera, mais même avant ça, un autre passage, avant, Marthe lui dit, je sais que tu vas le ressusciter, je sais que... Et pour bien des gens, ça pourrait faire comme si c'était, vous connaissez bien, ben, vous connaissez pas personnellement, mais vous connaissez le personnage Charles de Gaulle. Il est venu au Québec, moi j'étais pas encore né, il a dit des choses que j'ai pas besoin de répéter, des choses, des propos assez inflammatoires, assez... Mais même lui, dans un état après la Deuxième Guerre mondiale, il le dit, et je le cite, Charles de Gaulle dit, « Je suis... » Non, il dit, « L'État, c'est moi. » Il a dit ça parce qu'il était vraiment au centre, et c'est lui qui tenait un petit peu l'État ensemble. Et il le disait parce que, c'est pas qu'il prétendait être tous les ministères et rendre toutes les... Mais s'il n'était pas là, l'État n'aurait pas survécu, ou l'État n'aurait pas été ce qu'elle était. De la même façon... Jésus n'est pas en train de dire qu'il est la résurrection et qu'il est la seule façon de vivre physiquement. Il est en train de déclarer que si quelqu'un veut ressusciter, si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, au-delà de ce qu'on voit ici, qu'il est l'accès, il est le chemin, la vérité et la vie. De la façon qu'un Charles de Gaulle peut être présomptueux et peut dire ça, Jésus était tout à fait dans ses droits, tout à fait la rectitude, il est tout à fait juste pour lui de déclarer ça. Mais encore, c'est drôle, c'est surprenant qu'il arrive et qu'il dise ça pour consoler Marie et Marthe. « Je suis la résurrection et la vie. » Frères et sœurs, ce matin, c'est un passage qu'on pourrait relire et je prie que vous allez le relire, mais toujours avec une fraîcheur. Pas le lire avec les préconçus ou le fait que vous l'avez déjà lu avant, mais de redécouvrir, mais qu'est-ce que ça implique, ça, que Jésus soit la résurrection et la vie? Est-ce que ce matin, vous pouvez affirmer, comme Marthe a déclaré, ou comme Marie a déclaré, « Oui, je le crois. » Verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Mais même avant ça, je pars mes pages ici. Marthe l'avait dit aussi qu'elle le croyait. Elle savait, verset 22, le verset 22 et 23, comme Jean a mentionné, « Ton frère ressuscitera. » Marthe le dit, « Je le sais. Je sais, lui répondit, qu'il ressuscitera. » Ce matin, pour vous, croyez-vous à la résurrection? Croyez-vous que vous pouvez avoir accès à une vie qui va au-delà de votre vie terrestre? C'est essentiel à votre foi aujourd'hui. Si vous ne croyez pas à la résurrection, il manque quelque chose à votre foi en Jésus. Et ça vaut la peine d'y réfléchir, là je change de chapeau, mais d'y réfléchir pastoralement à un instant, cette idée, l'idée de la mort. Parce que pour ressusciter, il faut y avoir une mort. Et dans notre assemblée, on est un peuple assez varié. On n'est pas juste des jeunes de 20 ans, on n'est pas juste des personnes plus âgées de 70 ans. Donc je sais que pour certains d'entre vous, même, j'ai des gens qui m'ont posé la question par rapport à leur testament récemment. Donc, il y a des gens qui songent à la mort. Il y a des gens qui, à leur horizon, la mort est une réalité plus présente ou plus proche, font-ils penser. Donc, dans notre assemblée, oui, certains vont déjà être en train de préparer à cela, mais je pense que pour toute l'Église, la mort est une réalité pour laquelle nous devons tenir compte. Et dans la société aujourd'hui, on peut parler de bien des sujets. Vous pourriez faire un sondage, un questionnaire, parler de sexualité, parler d'identité sexuelle, parler de des sujets assez extrêmes, et tout le monde serait prêt à y mettre une réponse, à y mettre son opinion. Mais là, quand tu commences à parler de la mort, c'est qui d'entre vous, cette semaine au travail, a osé, durant une heure du dîner, dire « Hey, laissez-moi vous parler de la mort de mon père. » Laissez-moi là, ou même sortir des photos comme mon grand-père qui est décédé il y a 2 mois, de dire « Hey, laissez-moi vous montrer des photos de mon grand-père qui est mort. » Juste quand il a expiré, quand il a vu son... J'ai même filmé son dernier souffle. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui va se délecter ou qui va même entretenir le sujet. C'est vrai, la mort aujourd'hui est un tabou. Pourtant, le peuple de Grande-Bretagne, il y a de cela quelques décennies, le peuple de Grande-Bretagne qualifiait les chrétiens comme ceux qui savent bien mourir. Intéressant, hein? Le peuple général en Grande-Bretagne, dans le UK, ils avaient catégorisé les chrétiens comme « those who know how to die well ». C'est un peu un drôle, c'est pas pas l'étiquette que tu veux avoir sur ton tag. Je suis prêt à mourir, je sais mourir. Mais en même temps, c'est quelque chose de qui apporte une réflexion ce matin. D'abord, sommes-nous prêts à mourir? Je ne vois pas devant moi des gens ici qui sont suicidaires, qui veulent. Au contraire, je vois des gens ici qui aiment la vie, n'est-ce pas? On le voit par nos chants, on le voit par nos activités. On veut amener la vie à ces jeunes enfants au cœur du trésor. On veut amener la vie à nos différentes activités comme Église. On veut annoncer la vie en Jésus, la résurrection en Jésus. Mais soyons francs, on pourrait parler de bien des sujets. Mais la mort, c'est un sujet que même, je pense que des fois les chrétiens ont besoin de réapprendre à parler de ce sujet. Pastoralement, je vous parle, là, c'est pas juste le pasteur qui devrait être capable ou à l'aise. C'est pas qu'on a une fascination incroyable avec la mort. Mais la mort est une réalité dans laquelle nous faisons tous partie. Et je suis pas en train de dire que là, comme chrétien, quand quelqu'un meurt autour de vous, vous devez commencer à parler. Des fois, c'est bon d'écouter. Des fois, c'est bon de pleurer. Jésus le fait. Et on va en parler plus des émotions de Jésus dans la prochaine prédication. Parce que Jésus, est-ce que vous pensez qu'il pleurait parce que son ami Lazare était mort? Jésus savait qu'il était pour le ressusciter dans 3 minutes. Pourquoi est-ce qu'il serait en train de pleurer? Est-ce que Jésus pleurait parce qu'il pensait que « Oh non, il faut que je fasse un autre miracle! » Non, mais c'est des suppositions que les gens ont faites. C'est complètement... C'est dingue, là. Ça, Jésus n'est pas triste parce qu'il devait occasionner ça. Jésus est triste à cause de la réalité de la mort. Jésus est triste parce qu'il est en train de voir encore le déchirement. Et souvent, on cite Jésus pleurant dans les funérailles parce qu'on pense que c'est on a le droit d'être consolé parce que Jésus... Mais c'est pas ça. Puis même, dimanche prochain, je vous avertis, on va parler de mort parce que le grec ne vit pas un funérail de la façon qu'un Britannique vit un funérail. Un Britannique, là, mission accomplie si une larme coule. Pour lui, là, quelqu'un a perdu un être cher, s'il y a une larme sur sa joue... Tandis que les Grecs, là, c'est expressif, puis pas juste les Grecs, là, il y a d'autres nationalités, que quand c'est les décès ou les funérailles, c'est ça crie, ça pleure, ça hurle. Et il y a un côté que Jésus, étant juif, étant dans une culture, où est-ce que même les familles les plus pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? On engageait deux musiciens. Pas à cappella, là, mais on engageait deux, au moins deux flûtistes. C'est-tu flûtiste, c'est bon? Deux personnes qui jouaient la flûte, puis ils jouaient pas des chansons joyeuses, folkloriques. C'était, en anglais, on dit des dirges, des chansons qui sont vraiment à type sombre, tout en clé mineure, là. Tout est déprimant, tout est triste, parce que le peuple juif, ou bien d'autres peuples, quand venait la mort, c'est la tristesse. Et on va la vivre, la tristesse, on va pas la camoufler, on va pas... Et là, mon but, c'est pas d'analyser toutes les cultures. Mais la mort, c'est quelque chose qu'on devrait... avoir réfléchi. C'est pas quand arrive la mort que là on peut y réfléchir. La parole de Dieu nous parle de la mort, nous parle de cette réalité. Et Jésus, dans ce deuxième point que je vous dis, Jésus nous surprend, Jésus les a surpris. Au lieu de parler de Lazare, Jésus parle de lui-même. Et je relis les versets 25. 25b, il va parler de la résurrection et 26 de la vie. Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amis, invités, que vous êtes ici ce matin, crois-tu cela? Crois-tu à la vie après la mort? Cette dame, cette amie de Jésus a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Mais c'est une famille en moyen, parce qu'eux, ils n'ont pas eu deux. Puis comme je dis, les familles pauvres avaient peut-être deux flûtistes et engageaient une pleureuse. Quelqu'un engagé pour pleurer. Fait que chaque fois que dans le service ou dans l'environnement ou la semaine autour du décès d'un être cher, chaque fois que ça commençait à être plus tranquille, attention vos oreilles, elle se remettait à pleurer pour s'assurer que tout le monde savait que ça déchirait, ça faisait mal. La mort n'était pas quelque chose d'agréable ou de quelque chose qu'on laissait passer inaperçu. Au contraire, mes amis, souvent c'est quand les gens sont sur leur lit de mort qu'il y a une réceptivité, il y a une réflexion. Et je vous invite, je vous en conjure, n'attendez pas à ce moment où est-ce que votre maman ou votre papa soit dans ses derniers instants pour lui dire « Papa, laisse-moi te parler de la résurrection de la vie. » Il y a un être qui l'a déclaré et qui vit aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. Jésus est ressuscité. Et vraiment, Jésus, et c'est vraiment intéressant, j'ai quasiment hâte de prêcher le prochain message, parce que Caïphe, le souverain sacrificateur, dans les versets 47 à 53, il va parler avec un double ironie. Il va dire, ben, il faut que quelqu'un meure pour que la nation soit sauvée. Lui, Caïphe était vraiment préoccupé par ce qui se passait. Si Jésus faisait vraiment ce qu'il faisait, eh bien, les Romains, ça allait attirer de l'attention si quelqu'un avait cette capacité. Et il avait peur, Caïphe avait peur que les Romains viennent détruire. Nous, c'est facile aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on le sait. Même si Jésus est mort en 70, les Romains, ils ont tout rasé pareil. Donc, ce n'était pas une réponse nécessairement, mais en même temps, c'était une réponse. Que pour le peuple, tout enfant de Dieu, il a fallu que quelqu'un meure pour que nous, on puisse avoir la vie. Il a fallu, Jésus aller voir la résurrection de Lazare, voulait dire lui donner sa vie. Lui, il s'enlignait, il embarquait dans l'engrenage de, bon, là, ça va être encore plus clair que qui il est et ce qu'il fait et la division dans le peuple. Certains vont dire, waouh, on croit en lui, Marie, Marthe, Lazare. Imaginez-vous ce matin, on ne peut même pas présupposer, mais quelle était la conversation entre Lazare, Marie et Marthe? hey, c'était comment l'autre bord? Il y a des livres qui ont été écrits aujourd'hui, mais on sait tous que ça s'avère toujours à être des fausses histoires où est-ce qu'un enfant est ressuscité ou est allé pour quelque temps, était déclaré mort, mais finalement il est revenu. Mais ici, on sait véridiquement, Lazare a été 4 jours. 4 jours mort. Imaginez-vous, la décomposition qui n'est plus décomposition. C'est fantastique, c'est surnaturel, c'est un miracle que Jésus encore va nous surprendre. Il nous surprend des fois en attendant pour réagir ou pour agir. Il nous surprend des fois parce qu'il parle de lui plus que de d'autres choses. Il va refocaliser sur lui-même. C'est mes 2 points que je vous apportais ce matin. Moi, je vous invite à prier avec moi. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner par non seulement la mort de Lazare, mais par sa résurrection, par le fait qu'il est revenu, par le fait que Jésus a vécu des émotions assez intéressantes. Courbons-nous, prions ensemble et on va chanter un dernier chant. Seigneur, je vois encore dans ta parole à quel point il y a des sujets où il y a des endroits qu'on ne veut pas aller, mais que c'est des endroits que toi tu veux nous apporter. Et on peut décider ce matin d'avoir le coup raide, et tu peux nous amener pareil avec un coup raide, ou bien on peut être souple, on peut être à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de ta parole, et voir à quel point tu es un Dieu qui fait les choses parfaitement dans son temps, parfaitement à sa façon, et encore une fois, parfaitement pour sa gloire. Combien d'endroits dans ce passage, Jésus, tu as mentionné que la gloire du Père a été manifeste par la gloire de toi le Fils. Combien, Seigneur, cette résurrection de Lazare, c'est glorieux, mais ça ne ressemble pas pleinement à la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'on sait que Lazare est ressuscité d'entre les morts, mais il a vécu une vie et il est mort encore. Son corps a décomposé. Il a eu un temps limité sur terre à cause du péché. Seigneur, ce matin, nous te parlons, nous te chantons parce que tu es ressuscité. On peut chanter ses louanges, on peut vivre notre vie pleinement rassuré qu'un jour, tous ceux qui ont placé leur confiance en toi ne verront pas la mort, même s'ils ont vu la mort, même si un jour, peut-être, notre cœur va arrêter de battre. Eh bien, Seigneur, c'est toi qui redonnes la vie. Seigneur, je ne suis pas prêt à prendre, moi, ce risque de ne pas croire en toi. J'ai déjà été quelqu'un qui te ridiculisait, qui ne croyait pas en toi. Mais aujourd'hui, je peux le déclarer et nous voulons le déclarer. Nous croyons en toi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es la résurrection et la vie. Et ça, c'est surprenant pour tout être humain. Parler d'un être, le Dieu fait homme, ça surprend. Mais en même temps, c'est vrai. Seigneur, donne-nous un rapport sain avec la mort, qu'on ne puisse pas éviter ce sujet qui est tellement, tellement d'actualité. Pourtant, la société ne veut pas qu'on explore tout ce qui entoure la mort. Merci Jésus d'avoir surpris Marie, Marthe et Lazare. Merci de, encore une fois ce matin, nous nourrir par ta parole, de nous montrer que tu es plus fort que la mort. Et quand tu as dit « Lazare, sors », Lazare est revenu à la vie. Oui, Seigneur, nous te chantons, nous te louons ce matin, nous te prions, parce que tu es le seul Dieu vivant. Tu es le seul Dieu qui règne et qui nous a créés et qui nous a rachetés et qui nous aime. Tu nous aimes réellement, personnellement, pas juste de façon collective, mais chacun ici ce matin, Seigneur, je te prie qu'il puisse ressentir, qu'il puisse goûter, qu'il puisse lire de la parole de Dieu à quel point tu es un Dieu qui aime. Et quand tu aimes, tu fais des choses incroyables dans nos vies. Seigneur, nous te louons parce que tu es le Dieu qui surprend. Tu es le Dieu qui nous ramène de la mort à la vie. Au lieu d'être aveugle, aujourd'hui on peut voir. Au lieu de vivre dans les ténèbres, on peut vivre dans la pleine lumière. Au lieu de vivre dans le mensonge, on peut vivre dans la vérité. C'est tellement libérateur. Seigneur, je t'en prie. Viens nous visiter cette semaine, même dans notre façon de relire ce passage, dans nos groupes maisons, ou peut-être même avec des amis ici de l'Église, ou d'ailleurs, de prendre la prédication, prendre ces questions, puis de réfléchir aux épreuves dans notre vie, et réfléchir à quel point tu es un Dieu qui est patient avec nous. Merci pour ce temps.